Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. On le sait toutes, la maternité bouleverse nos vies. Elle bouleverse ce qu'on pensait être acquis, elle change notre perspective, notre centre du monde et souvent aussi, elle remet au premier plan ce qui est important. La carrière professionnelle en fait partie et c'est ce qui s'est produit pour Julia. Super active depuis toujours, passionnée par son travail, elle a eu une révélation après son premier accouchement. À son retour au bureau après son congé maternité, il y a un gros décalage avec ce qui l'épanouissait auparavant. Son métier n'a plus vraiment de sens pour elle, alors elle part loin de tout, loin de son travail, de son bébé et de son mari pendant 2 semaines à Bali. Elle se reconnecte à elle, à ses envies, pour redonner du sens à ce que le quotidien effréné a mis de côté ces dernières années. Et puis, c'est la révélation. Julia quitte son job et démarre sa nouvelle mission de vie. Un changement professionnel qui aura aussi un impact sur l'arrivée de son deuxième bébé. Julia est plus sereine, plus apaisée et a plus confiance en elle, en ses capacités de mère. Bonne écoute! Hello Julia!
Hello Shane!
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas!
Oh, avec plaisir, merci pour ton invitation.
Avec plaisir aussi. Toi, tu es la maman de 2 filles, ouais. Elles ont quel âge?
Elles ont, alors Léonie a 13 ans et ouais. Emma en a 9.
Et proche full adolescence.
Ah là, on est en plein dedans. Ouais.
Même la petite de 9 ans
La petite regarde la grande, mais non, pour l'instant, ça va. Je m'en sors encore bien avec la petite, c'est bon. On est vraiment bien au primaire. On est avec des problématiques de primaire, c'est absolument parfait.
Ouais. On va revenir avant que toi, tu deviennes maman. Quel regard tu portais sur la maternité quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu t'es toujours dit que tu deviendrais mère un jour ou c'était pas un sujet
Pour moi, c'était un non-sujet. Ça faisait partie, la maternité faisait partie de la vie et ça faisait partie de toutes les options qui étaient possibles. Mais j'étais pas une de ces petites filles qui se disaient « Ah, oh, putain, mon grand rêve, c'est d'être maman. Ouais. » Non, moi, j'ai pas eu ça. C'est plutôt venu au fur et à mesure. J'avais un amoureux que j'aimais à la folie. Et un jour, on s'est dit, on était au Kyrgyzstan et on s'est dit « Oh, et si on agrandissait notre tribu et tout, et si on permettait à notre petit être et tout de, bah, du coup, de partager notre amour et notre vie.
Ouais. »
Et on s'est dit « Oui, au Kyrgyzstan. » Et puis, du coup, Léonie est arrivée juste après.
D'accord. Et ça faisait longtemps que vous étiez en couple?
Ça faisait 7 ans, je crois.
Ouais. Ok. Donc, tous les deux super prêts.
Ouais, tous les deux super prêts, comme on peut être prêt quand on a 27 ans. C'est-à-dire, pas du tout.
Bon, même peu importe l'âge, je crois.
Non, mais je pense qu'on s'en rendait vraiment pas compte. Et puis, on était les premiers de notre groupe de potes. Donc,
ouais.
Donc on avait absolument aucune idée de ce qui nous attendait. Mmh. Mais vraiment aucune idée.
Et alors, tu découvres ta grossesse rapidement, après avoir pris la décision?
Ouais, je crois qu'on est au Kyrgyzstan en août, j'arrête ma pilule en septembre et je tombe enceinte a priori début décembre.
Okay.
Donc il s'est passé un cycle,
ouais.
Et au deuxième cycle en fait je suis tombée enceinte et j'apprends que je suis enceinte entre Noël et le Nouvel An. J'ai des nausées, je me sens pas très bien, je me dis que j'ai peut-être un petit peu forcé sur le foie gras et sur le champagne et en fait non, pas du tout, j'étais enceinte à ce moment-là quoi. Et je me rappelle très bien être dans les toilettes avec mon petit stick et voir ce résultat positif et d'avoir le cœur qui s'emballe et me dire waouh, en fait je suis trop contente et en fait là je suis flippée,
ouais.
Et le premier truc que je me suis dit c'est oh, mais en fait je crois que je suis trop petite pour être maman.
Ouais, t'es encore
ouais.
Un bébé, enfin,
ouais. Et c'est exactement ça.
Un enfant toi-même.
C'était exactement ça, quoi. Et donc, je crois qu'à ce moment-là, je me rends compte que c'est beaucoup de responsabilité, quoi.
Ah ouais,
au moment où je fais pipi sur mon truc, quoi.
Les deux barreaux s'affichent.
C'est ça. Et donc, hyper contente, ravie, mais genre le cœur qui explose. Et en même temps, ce petit truc quand même qui est là, qui est « Oh, waouh !»
Ouais.
Ok. Voilà, ça, on rigole plus, là, c'est pour de vrai, quoi.
Ouais. Et là, c'est en plein dans les fêtes de famille, donc tu l'annonces à tout le monde.
On l'annonce à ses parents tout de suite.
Ouais.
On se ramène chez eux en Bretagne avec un paquet de café grand-mère.
Ok.
Alors, autant moi, j'étais pas prête...
Ce n'est pas sponsorisé.
Oh, pardon. Oui, en plus, c'est même pas bio, je crois. On va pas, excusez-nous. Et en fait, on arrive et en tout cas, moi, voilà, j'étais pas prête... Enfin, je m'étais jamais vraiment projetée, etc., dans la maternité. Mais en tout cas, sa maman, lui, depuis longtemps, c'était un truc pour elle que de devenir grand-mère, quoi. C'était quelque chose qu'elle attendait avec impatience. Donc, quand le paquet de café a été ouvert, voilà, elle était vraiment hyper, hyper en joie, quoi.
Trop chouette. Ouais. Et alors, comment se passe cette première grossesse ?
Elle se passe hyper bien et elle me permet de découvrir un monde qui m'est totalement inconnu. C'est le yoga, l'ostéopathie, la naturopathie, je parle souvent des smoothies verts, tu sais. Voilà, je me mets à faire du yoga prénatal et je me prépare en fait pour cette grossesse, surtout pour cet accouchement. Et je me suis vraiment préparée comme une championne olympique pour ce moment, pour l'accouchement. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'étais préparée au concours. Enfin, c'est un truc, j'étais un peu dans un truc de compétition, etc. Donc c'était bien normal que je sois super prête pour mon accouchement.
Ok, donc c'est quoi ? T'as lu plein de livres,
J'ai lu pas mal de bouquins. J'étais à mon cours de yoga prénatal avec cette prof de yoga. Qui faisait ça depuis, je sais pas, une trentaine d'années, quoi. C'était une femme de 65, 70 ans, etc. Qui, donc voilà, j'étais un peu imprégnée de toutes ces femmes avec ces énormes ventres qui étaient autour de moi, alors que moi, pour l'instant, à ce moment-là, ça se voyait pas trop. Et du coup, je me suis beaucoup nourrie de l'énergie des femmes qui étaient là et je regardais comment elles étaient, comment elles se sentaient. Et j'apprenais, j'ai beaucoup appris des respirations qui étaient faites, etc., justement pour ce moment de l'accouchement parce que j'avais vraiment cette sensation-là que l'objectif de la grossesse, en fait, c'était vraiment d'accoucher.
Mmh.
Et que c'était vraiment ça, le grand objectif, c'était l'accouchement, quoi.
Ouais.
Parce que tout tourne autour de ça, tu vois, les rendez-vous à la maternité, avec la sage-femme, etc., c'est beaucoup, beaucoup autour de ça, quoi.
Mmh, mmh. Ouais. Carrément. T'as pas eu de mots particuliers pendant ta grossesse ? Tu t'es détendue aussi sur le fait que t'allais devenir maman ou ça a perduré ?
Tout à fait, ouais. Je pense que j'étais stressée, tu sais, avant chaque écho, pour être sûre que tout allait bien, etc., notamment pendant le premier trimestre. J'avais cru comprendre que le premier trimestre, c'était presque dangereux. On savait pas trop si le bébé allait rester ou pas.
Mmh.
C'était un peu flippant, donc je me rappelle au début, tu vois, vraiment checker très souvent, savoir si j'avais du sang ou pas qui pouvait couler. Je sais que c'était quelque chose de très présent pour moi au tout début de ma grossesse. Que j'ai complètement lâché du coup pour la deuxième, mais pour la première c'était vraiment présent, mais tout s'est bien passé, j'ai pas eu de mots particuliers, quelques mots d'eau, mais j'avais une super ostéopathe, non, rien de très, tout était hyper facile, hyper fluide, j'adorais voir mon ventre grandir, c'était hyper beau, quoi. Moi j'ai trouvé ça magnifique, c'était vraiment vraiment chouette.
Ouais. Et tu faisais quoi comme boulot à ce moment-là ?
Je travaillais dans les cosmétiques,
okay.
On en parlait tout à l'heure avant de commencer, parce que j'ai vu des produits que je connaissais... dans ton environnement. Et donc moi je travaillais pour les cosmétiques, je lançais des marques à l'étranger, beaucoup aux États-Unis,
okay.
Et puis en Asie, et puis quand la crise en 2017 est arrivée, on a fait un peu l'inverse, on a pris des marques qui venaient de l'étranger pour essayer de les ramener en Europe. Donc voilà, on était un peu sur tout ça, quoi.
Donc tu bossais beaucoup ?
Je bossais assez, ouais, je pense que je bossais
bon
beaucoup.
Rythme.
J'avais un bon rythme. Et en même temps, c'était un métier très sympa, avec plein d'échantillons.
Ouais.
Moi, j'adore... j'ai travaillé à New York, au début... Enfin, avant d'être diplômée de mon école de commerce. Donc moi, j'adore tout cet environnement international. J'ai beaucoup voyagé. Donc le fait de travailler avec plein de marques de l'étranger, etc., c'était hyper excitant pour moi.
Mmh.
Je faisais des meetings en anglais. Enfin, il y avait quelque chose qui était vraiment très nourrissant pour ma curiosité. Et puis le fait de mettre en place ces marques-là, c'était excitant, tu vois, c'était changer la vision qu'on pouvait avoir des cosmétiques, c'était créer des petits magasins, des espaces, tu vois, naturels, etc. On était beaucoup dans le bio et le naturel à ce moment-là.
Okay.
C'était très nouveau, tu vois, j'avais travaillé pour Sanoflore avant que Sanoflore soit racheté par L'Oréal. Tu vois, c'était vraiment les prémices de tout ce monde-là. Et c'était hyper excitant, donc c'était très chouette. Et mes copines étaient fans de mon boulot parce que j'avais toujours plein d'échantillons à partager après quand on avait fini de faire des ventes, etc. Donc c'était sympa.
T'as pas eu de difficulté à annoncer que t'allais avoir un enfant ? Y a pas eu de...
Non, parce qu'il était très heureux pour moi. C'était un papa poule qui aimait très très fort ses filles, etc. Donc il y avait quelque chose autour de sa famille qui était très fort. Et donc je pense que ça devait pas l'arranger que je sois enceinte, parce que ça voulait dire plein de choses et qu'à cause de la crise, on avait déjà réduit les équipes à fond. On a travaillé tous les deux pendant quelques années.
Ah oui, d'accord.
Et donc ça voulait juste dire de s'organiser un peu différemment et donc d'avoir quelqu'un notamment qui rentre dans l'équipe. Mais à part ça, qui devait être compliqué pour lui au point de vue de logistique et tout, non, je pense qu'il était heureux pour moi parce qu'il y avait ce côté, tu vois. Et puis on accueille la vie, donc c'est quand même plutôt chouette.
Ouais. Et donc toi, tu te prépares, comme tu dis, à cet accouchement avec le yoga, en lisant plein de livres.
Ouais.
Qu'est-ce que tu envisageais, toi? Est-ce que tu avais fait un projet de naissance particulier ou...
Pas spécialement. Je savais que je voulais pas forcément accoucher avec une péridurale.
Okay.
Mais comme c'était ma première fois et qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre.
Mmh.
Voilà, c'était partie du projet. Mais si je passais par quoi que ce soit d'autre, c'était aussi OK pour moi. Je n'étais pas vraiment très fermée là-dessus.
Mmh.
Même si avec du recul, peut-être qu'avec mon côté compétitrice, peut-être que je voulais quand même vraiment accoucher sans péri. mais je ne pense pas que j'étais vraiment... J'étais pas fermée aux autres possibilités parce qu'il y avait ce truc-là aussi de se dire le plus important, c'est le bébé. Le plus important, c'est d'être sûr que le bébé soit en forme, etc. Donc
ouais.
J'étais plutôt dans ce mindset-là à ce moment-là.
Et alors, comment ça s'est passé le jour J?
Alors, comment ça s'est passé le jour J? On est parti manger au restaurant, notre restaurant chinois préféré, à Belleville. Et je pense que j'avais beaucoup trop mangé. Et donc, je m'étais dit, ouais, j'ai quand même mal au ventre là et tout. Je pense que j'ai un peu abusé des nouilles. On aurait peut-être pas dû les prendre en plus, celles-ci. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une problématique de digestive. C'était juste le travail qui se mettait en place.
Ouais.
Et donc, c'était marrant. Tu vois, c'était ce moment du bon, je crois que c'est parti, je commence à un peu avoir mal au ventre, etc. Hop, on prend une dernière photo, on se prépare, et là on rentre dans un taxi, puis on arrive du coup à la maternité. Donc tu vois, le voyage en taxi quand même trop marrant parce que je cache mon ventre, parce qu'on nous avait dit parfois les taxis veulent pas prendre de femmes enceintes à Paris, etc. Donc j'ai avec mon gros coussin, et donc on arrive devant la mater, et donc là il comprend qu'on arrive devant une maternité, il nous regarde un peu bizarrement, et on le remercie du coup de nous avoir amené pour aller délivrer du coup ce petit bébé. Donc c'était assez marrant. Il y avait beaucoup de joie en fait, il y avait beaucoup de joie, c'était assez drôle. C'était entre on a un peu peur parce qu'on savait pas trop ce qui va arriver, et en même temps on était ensemble et tout, donc ça allait aller, quoi. Et donc là j'arrive à la maternité, puis on arrive dans la chambre assez rapidement. Le travail avance plutôt bien, j'ai la chance de pouvoir avoir accès à une salle de bain avec une baignoire à l'intérieur, etc. Donc mon travail s'est vraiment fait longtemps là-dedans, et tout se passait très très bien. Il y a eu un moment donné où a priori elle a arrêté de descendre, donc ça allait rester un petit moment quand même. Quand je dis elle, c'est Léonie, du coup. Elle est restée un petit moment comme ça, sans qu'il y ait trop de changements. Et à chaque fois, la sage-femme me disait « Ah, c'est bon, c'est dans l'heure qui vient, etc. » Finalement, tu vois, t'as le changement d'équipe qui arrive et tout à 7h, je crois. T'as une nouvelle équipe qui est là et tout. Pff. Bref, donc ça, on s'est dit que c'était quand même un petit peu long à ce moment-là. Mais j'étais hyper concentrée. En fait, je pense que j'étais dans un état modifié de conscience. J'étais plus vraiment là. C'était pas de la dissociation parce que j'étais en douleur, parce qu'en fait, j'ai pas eu de douleur.
Ah ouais?
Non, j'étais vraiment concentrée, je faisais mes respirations comme celles que j'avais apprises, et j'étais connectée à une force qui était beaucoup plus grande que moi.
Mm.
Depuis que je suis petite, hein, je suis croyante, j'ai des croyances... Je crois très fort en Marie, qui est un personnage, un archétype qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Et pour moi, à ce moment-là, elle était dans la chambre avec moi, il y avait quelque chose qui était hyper apaisant, en fait. Je savais que j'étais soutenue, et j'avais juste à accueillir chaque contraction et juste à respirer dedans, etc. J'étais vraiment dedans, j'étais hyper calme.
Ouais. Donc ouais. T'as pas eu de péridurale?
Non, au final, du coup, j'ai pas eu de péridurale, j'en ai pas eu besoin, parce que tout s'est... Même si à un moment donné, ça s'est arrêté, j'étais déjà bien dilatée, donc ça servait vraiment plus à rien. Et puis après, du coup, Léonie est arrivée avec l'aide d'instruments, etc. Elle est partie avec son papa pendant 2 heures, parce qu'en fait, j'ai fait une hémorragie de la délivrance.
Ah oui.
Ouais, donc ça, c'était dur, parce que cette partie... et je me rappelle bien avoir dit ça à la gynécologue juste après... Parce que j'ai une partie un peu compétitrice sûrement, et puis surtout perfectionniste, etc. Et je me rappelle d'avoir dit à la gynéco, putain, j'ai raté mon accouchement et tout, j'ai une hémorragie de la délivrance, quoi. J'ai un super accouchement, j'ai pas eu mal, putain, j'ai une hémorragie, quoi.
Ouais,
elle me regarde, je pense que... Alors je sais pas si j'étais encore sous les effets des gaz et tout, mais je me rappelle vraiment clairement lui avoir dit ça. Et puis il me dit, mais comment ça, vous avez pas eu mal? Non, j'ai pas eu mal et tout, mais putain, cette hémorragie, quoi. Ça veut dire que j'étais vraiment fatiguée, et qu'en fait j'étais du coup sans Léonie et son papa pendant un petit moment. Donc oui, on a eu du pot à pot au début, le temps qu'ils se rendent compte que je saignais, qu'ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Mais c'était un moment aussi où j'étais un peu seule, quoi.
Mm.
Et j'ai appris après en fait qu'il l'avait un peu oublié aussi dans une salle.
Ah oui.
Donc je pense que lui devait se poser plein de questions en fait sur... Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va mourir? Elle est en train de signer quand je suis partie. Donc il y avait ce long pot à pot et tout, mais après voilà, ils sont revenus et tout, et c'était chouette d'être ensemble. Et donc il y avait quand même cette partie de moi, je pense, qui était sûrement fière d'avoir eu cet accouchement-là, malgré cette hémorragie de la délivrance. Mais c'est surtout le lendemain, en fait, que ça s'est compliqué pour moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que autant j'étais préparée pour mon accouchement, autant j'étais pas du tout préparée à ça, quoi. Avoir un bébé aussi petit, je n'avais jamais vu des aussi petits avant. L'avoir contre moi et vraiment me rendre compte que maintenant j'étais vraiment responsable d'elle et que j'allais devoir assurer, sans avoir aucune connaissance de ce qui se passait à ce moment-là.
Ouais, c'est un peu ta panique du début qui est revenue finalement.
Exactement, ouais. Et c'est aussi se dire, on n'avait même pas pris de couche avec nous, on n'avait même pas pensé à ça, quoi. On était, je pense qu'on était vraiment des petits mignons, quoi. On était vraiment mignons, voilà.
Et t'avais prévu d'allaiter ?
J'avais prévu d'allaiter, l'allaitement était hyper difficile. Ouais. Et en fait, ça a été, pour moi, l'allaitement était beaucoup plus compliqué et douloureux que l'accouchement, par exemple, mais de très très loin. Je me souviens de marcher dans les couloirs de la maternité débluée, seins nus, en fait, parce que j'arrivais plus à avoir de quoi que ce soit en contact avec ma poitrine, tellement j'avais mal, quoi. Je saignais, c'était horrible. Et du coup, je me rappelle marcher toute seule, tu vois, le soir, parce que du coup, le papa était rentré, j'étais vraiment toute seule, quoi. Et ça, c'était hyper dur. Mmh. Tu galères, c'est comme un accouchement, même si c'est sans péridurale, bah, c'est quand même intense, quoi, même au niveau de ta vulve, etc. Il s'est quand même passé quelque chose, quoi.
Ouais.
La vulve, les seins et tout, le fait d'avoir ce ventre vide, et en fait, de découvrir ce qui se passe après l'accouchement. Moi, je pensais que les contractions s'arrêtaient. Quand le bébé est arrivé, en fait, c'est pas le cas. En fait, t'as des contractions encore pendant un ou deux jours après, quoi. Mmh. Et ça, j'étais pas prévenue. C'était une surprise pour moi et c'était très, très difficile. Donc, l'effet de surprise, la solitude et les douleurs, ouais, c'était dur. Et la responsabilité.
Ouais.
Émotionnellement, c'était vraiment pas facile. Physiquement, émotionnellement, c'était vraiment, vraiment dur, quoi.
Et t'as pu être aidée pour ton allaitement sur place ?
Alors, sur place, oui et non, parce que tout le monde avait son mot à dire, mais tout le monde disait des choses différentes.
Ouais.
Et comme j'avais cru comprendre que l'allaitement, c'était naturel... Je m'étais pas posé plus de questions que ça. J'avais fait des ateliers, etc. Mais j'avais beau essayer de faire les positions qu'on m'avait montrées, mais j'y arrivais pas, en fait. Mmh. Ou en tout cas, ça marchait pas avec Léonie à ce moment-là.
Ouais.
Et donc on a pris un tire-lait. Enfin, pareil, hein, comme on est hyper prêt. Bah, du coup, après, c'est parti, quoi. La machine se met en marche, le tire-lait, les bidules et tout ça. Mais j'avais tellement, tellement mal, quoi. Mmh. Tellement mal.
T'as réussi à tenir combien de temps ?
J'ai allaité Léonie pratiquement 6 mois.
Ah ouais ?
Ouais. On peut dire que je suis une personne assez déterminée.
Persévérante.
Et très persévérante. Et que quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur et tout, je fais en sorte que ça fonctionne, quoi. Mmh. Mais parfois, ça passe, en tout cas avant, parce que maintenant, j'ai grandi. C'était il y a 13 ans, tu vois. Mais j'ai pris beaucoup plus de sagesse. Mais oui, avant, j'étais comme ça. Et du coup, c'est pas grave, on va le faire fonctionner. Quitte à ce que ça me fatigue, quitte à ce que j'aille puiser dans mes réserves, etc. Et que ce soit difficile et tout, mais c'est ok parce que c'est aussi mon rôle et ma responsabilité que de donner le meilleur pour mon enfant, que de bien m'occuper d'elle, etc. quoi. Mmh. Donc c'était vraiment prioriser Léonie par rapport finalement à mon bien-être physique et émotionnel. Même si sur le coup c'est quelque chose qui s'est fait de manière complètement inconsciente et que je m'en suis pas du tout rendu compte. C'est après, avec le recul, avec les années, quand je me suis mise à accompagner des femmes, à voir comment elles étaient, etc., voir ce que ça a réveillé chez moi, c'était hyper apprenant. Mmh. Mais sur le coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne m'en rendais pas compte.
Ouais. Mmh. Donc le retour à la maison, les premiers mois, ça a été un peu compliqué.
Ouais, c'est compliqué parce que tu te rends compte que toutes tes copines continuent à vivre la petite vie et qu'en fait, tu commences toi à être complètement en décalage. Et ça, c'était dur pour moi parce qu'à la fois, elle me manquait et j'avais besoin d'être avec mes amis. Mmh. Et en même temps, j'étais aussi avec Léonie et j'étais contente d'être avec elle.
Ouais.
Et en même temps, j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et en même temps, je ne connaissais pas mes besoins du moment. Je manquais de clarté sur ce qui était important pour moi. Parce que je ne m'étais jamais posé ces questions auparavant.
Mais
oui. Tu vois, j'avais la tête dans le guidon et tu vois, j'ai avancé étude après étude, entreprise. Enfin, tu vois, c'était pas le bulldozer, mais presque, quoi, tu vois. Puis j'avais aussi, je pense, cette image de celle qui gère. Mm. Celle qui gère quoi qu'il arrive. Celle qui réussit ce qu'elle fait.
Ouais, donc tu t'es pas confiée sur tes difficultés à ce moment-là ?
Non, pas forcément. Tu vois, ma mère était malade. Qu'est-ce que je peux y faire, quoi ? Je veux pas lui dire...
Ouais, tu veux pas en rajouter.
Non, c'est ça, quoi.
Et au papa ?
Bah aussi, c'était difficile parce que c'était les premières fois où on disputait vraiment. C'était dans ses premiers mois, quoi.
Ouais.
Et le jour où on a fait une vraie nuit entière et tout, en fait, on était redevenus normaux. Et on s'est dit, en fait, je pense qu'on est fatigués. Mais oui, c'est sûr que c'était c'était étonnant, cette période.
Ouais.
Ouais, j'ai pas du tout aimé.
Et donc, t'as repris le boulot combien de temps ?
J'ai repris le boulot presque 6 mois.
D'accord, ok.
J'ai joué avec...
Les congés,
les trucs d'allaitement, parce qu'on pouvait encore un peu les faire à ce moment-là, etc., pour essayer d'allaiter Léonie encore un mois. Et donc, Léonie est née en août, et j'ai repris en janvier, après les vacances de Noël. On avait trouvé une nounou hyper gentille et tout. À ce moment-là, tu vois, c'est le fait de se remettre dans le boulot d'avant, avec un bébé en plus.
Et tout ce qui s'est passé pendant ces 6 mois.
Et qui te fait que quand tu reviens au boulot, en fait, c'est marrant et tout, t'es un peu moins excitée.
Ouais.
C'est un peu moins de sens, en fait. Ça
les
moins de
échantillons,
sens. Ouais, c'est... Ouais, tu t'en fous, en fait. Tu dis, en fait, c'est pas vraiment ça que...
Ça va me prendre de la place.
Oui, c'est chose. Ça. Encore. Non, mais ouais, en fait, je pense que mon excitation, etc., était... J'aimais toujours ce que je faisais d'une certaine manière, parce que c'est super, quoi, tu vois. T'es restée avec un petit bébé pendant tous ces mois-là, reparler à des adultes, oh mon Dieu, ça faisait vraiment du bien. Ouais. Et donc, le fait de renouer aussi avec cette vie-là, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et en même temps, je me suis rendu compte que ça me nourrissait plus, ça me nourrissait plus à l'intérieur. J'avais besoin d'un métier qui ait du sens. Et malheureusement, le métier que je faisais, même s'il était très sympa, n'avait pas de sens pour moi, en tout cas.
Et alors, qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte de ça? Ça a pris un peu de temps?
Ça a pris du temps. Bah, je commence à passer des entretiens dans notre boîte, en fait.
D'accord.
Que j'aurais su, mais finalement, je dis non à plusieurs reprises parce que je le sens pas.
Ouais.
Dont un où je suis allée vraiment très, 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 très loin, pareil. Et puis, j'avais reçu le contrat, j'allais le signer. Et puis, en fait, non, j'ai rappelé pour dire, en fait ce qui est intéressant, là, c'est le côté... je prends soin. Là, c'était bio et cosmétique, c'était dans tout ce qui était développement personnel avec un logiciel. C'était un logiciel hyper perfectionné pour faire des bilans de compétences, etc. Et autant ça m'intéressait d'accompagner des gens, autant faire faire toute la partie sur le marketing, les ventes, etc. C'était plus ok pour moi, quoi. Mmh. Donc pareil, j'ai dit non. Et en fait, j'étais perdue. J'ai une copine qui m'a dit tiens, moi, je suis partie à Bali faire un stage de yoga. C'est ce que j'ai dit à tout le monde, mais en fait, c'était pas du yoga. Tu devrais y aller. Et en fait, j'ai postulé, j'ai été acceptée et je suis partie un mois après, quoi. Et donc, je suis partie à Bali pendant 2 semaines. Loin de Léonie, loin de son papa, loin de mon environnement, de mes amis, de mes potes.
Ouais, loin. Recentrée sur toi.
Exactement, ne plus avoir, en fait, le poids de l'entourage et du regard de l'autre.
Ouais.
Parce que c'est ça qui est difficile, je pense. C'est que quand on s'est créé un personnage... et qu'on se rend bien compte que ça a ses limites et qu'on sent qu'on n'est plus aligné avec ça, ça demande beaucoup de courage de se le dire à soi, mais c'est encore plus difficile par rapport au regard de l'autre. Et le fait d'être partie comme ça, ça m'a vraiment permis de me reconnecter en fait à la femme que je suis depuis le début, mais d'être dans un environnement qui était dans le non-jugement, avec un coach qui était vraiment là aussi pour me pousser, pour que j'aille vraiment chercher à l'intérieur ce qui était là. Et une fois que t'as enlevé plein de couches, bah, t'es juste toi, quoi. T'es dans ton état originel. Et là, je me suis rendu compte que... Et j'ai eu plein d'infos qui sont venues. On a fait beaucoup de méditation, etc. Et en fait, mon truc à moi, en fait, c'était d'aider les femmes, quoi. D'aider les femmes. Et j'ai eu des images de moi dans un endroit avec des femmes enceintes, des jeunes mamans, tu vois.
Ouais, donc t'étais restée connectée à la maternité.
Exactement. Et en fait, c'était quelque chose auquel j'avais jamais pensé avant. Et en fait, là, c'était limpide. C'était pas comme si j'avais envie, tu vois, de guérir mon postpartum parce que... on m'avait pas prévenue, alors du coup j'aide les femmes. À ce moment-là, c'est pas ça, je suis dans un lieu magnifique, etc. Et en fait, ce qui vient à moi, c'est ça, quoi. Donc c'était vraiment, c'était comme si c'était une forme de sagesse intérieure qui venait me parler, me dire, en fait, ton truc à toi, c'est ça, quoi, c'est d'empuissancer les femmes. Et quand je m'y connectais, tu vois, j'étais dans un local à Paris, dans le 12e, enfin c'était hyper beau, quoi.
Ouais.
Et ça m'a beaucoup nourrie. On n'avait pas le droit de prendre de grandes décisions en rentrant en France, ou chez nous, parce qu'on était tous, il y avait beaucoup d'Américains, mais... Donc en rentrant à la maison, on est parti en vacances en Corse et puis en revenant j'ai posé ma rupture conventionnelle.
Ah ouais.
Ça s'est passé tu vois en l'espace de 1 mois.
Ah oui.
J'ai un côté qui est très une fois que c'est aligné et tout chez moi c'est hyper rapide. J'ai pas besoin de m'épancher trop longtemps quoi. C'est quand c'est clair j'y vais.
Ok.
Ouais.
Et là quand t'arrêtes un projet derrière.
C'était assez flou.
Ouais.
Ou en même temps c'est assez clair. Mon truc à moi c'est d'empuissancer les femmes. Bon, après, comment tu fais pour faire ça?
Oui.
Il paraît que le comment, on sait pas trop. Et puis, il faut juste être connecté au pourquoi. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, comme j'ai envie d'accompagner les femmes, ce qui m'était venu quand j'étais à Bali, c'était de faire de l'acupuncture traditionnelle. Et donc, en arrivant en France, je réfléchis à des moyens d'accompagner les femmes de manière globale. Et à ce moment-là, je rencontre quelqu'un qui me parle de la naturopathie. Vu un petit peu pendant ma grossesse, tu vois, mais qui me semblait quand même loin et qui...
Ouais.
J'avais fait un atelier, ça m'avait pas vraiment plu, quoi, pour être complètement franche. Je m'étais même sentie en me disant, oh, c'est chiant ce boulot. Enfin bon. et en fait, je fais ces études de naturopathie, je m'inscris parce que je me dis que ça va me permettre de mieux comprendre comment fonctionne le corps et que je vais avoir des informations sur les plantes, sur l'alimentation, sur plein d'autres choses. Et mon truc à moi, c'était aussi les plantes, j'avais quelque chose autour de ça. Mais la naturopathie, c'est bien plus complexe et bien plus complet que ça. Mais en tout cas, voilà, je me lance dans cette voie-là en me disant que ça va compléter tout mon travail, quoi. Et donc, ce sera ma première base, ce sera ça. Et je prends beaucoup de plaisir. Et ouais. Je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire aussi grâce à la naturopathie, grâce à l'alimentation. Et avec ma formation en acupuncture traditionnelle, je me rends compte que les Chinois, eux, s'occupent hyper bien de leur jeune maman. Et là, en fait, ça me fait un déclic en me disant, bon, en fait, nous, en France, en Occident, en fait, on a juste rien compris, quoi.
Ouais.
On a juste oublié, parce que c'est plus pratique d'oublier. Les femmes, on les met de côté, et puis, enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans. tout ça pour dire que je me rends compte qu'on peut faire plein de choses, en fait, à ce moment-là, pour ouais. les aider, les mères. Et que c'est juste trop dommage de pas s'en occuper. Et du coup, en 2014, Emma arrive, j'ai donc une deuxième grossesse super, un deuxième accouchement super, un postpartum beaucoup beaucoup mieux que la première fois, parce que je suis préparée, mais là je sais que je peux faire des choses en plus, donc je commence à mettre en place plus de choses autour de l'alimentation, autour du fait de me réchauffer, etc. Et pendant les années qui suivent, j'ouvre mon cabinet et là je commence vraiment à étudier ça vraiment en profondeur et accompagner des femmes qui sont des jeunes mamans et du coup à mettre des choses en place pour elles, en fait. Et donc j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches et beaucoup de pratiques du coup avec toutes ces femmes, et un jour je me suis rendu compte que tout ce qu'elles éprouvaient, c'était des choses qui étaient vraiment en résonance avec moi, et que je trouvais ça injuste, justement, que les femmes n'aient pas accès à ces informations-là. Donc j'ai commencé à faire des ateliers à Paris sur le postpartum, et après j'ai proposé l'idée d'un livre à des éditeurs, et puis First a été OK. Donc ma maternité m'a permis, tu vois, de me recentrer sur ce qui était important pour moi, et du coup d'utiliser ça pour après, du coup, aider les femmes aussi dans ce passage, quoi.
On va revenir sur ta deuxième grossesse, parce qu'elle a été pas mal différente, je crois, en tout cas l'accouchement de premier. Donc vous aviez décidé quelques années plus tard de faire un deuxième enfant.
Ça a pris 3 ans, tu vois, avant que je sois prête, parce que pour moi ça a été quand même difficile. Et puis pareil, ça a marché du premier, enfin au deuxième cycle, pareil. Donc une grossesse qui arrivait très rapidement et qui s'est hyper bien passée. Et là, une prochaine naissance, c'était autour d'une maison de naissance, donc la maison de naissance du Calme, qui est à Paris. Et mon projet et notre projet, c'était ça, c'était d'accoucher là-bas, parce qu'on avait envie d'avoir un accompagnement plus global que la première fois. Et franchement, le fait d'accoucher dans une jolie chambre et d'être entourée par ta sage-femme que tu connais et qui était là depuis le début, etc., pour nous c'était hyper, hyper beau. Et donc voilà, donc je connaissais ma sage-femme qui était aussi mon ostéopathe à l'époque, et donc du coup tout ça c'était très logique pour nous, et donc on a été accompagnés dans ce projet-là, voilà. Et donc un accouchement vraiment très chouette qui s'est soldé par un transfert au dernier moment à la maternité des bébés. Donc j'ai raccouché au même endroit que la première fois, mais avec ma sage-femme, etc. Donc ça, c'était chouette.
Et pourquoi il y a eu un transfert ?
Parce que 2 semaines avant ma date de terme, les bluets ont décidé que les femmes qui auraient des antécédents d'hémorragie à la délivrance ne pourraient plus être accompagnées au Calme. Sauf que du coup, cette nouvelle-là, elle est tombée 2 semaines avant ma date de terme. C'était hyper dur.
Ah ouais, t'as dû être déçue.
J'étais pas que déçue. J'étais en colère.
Ouais.
Parce que c'était pas du tout acceptable, tu vois, de changer des plans comme ça au dernier moment. C'était hyper dur. Ouais. Hyper dur.
Ok. Donc t'as pas pu accoucher dans cette...
Donc j'ai pas pu accoucher au Calme, au final. J'ai accouché au-dessus.
Et tout s'est bien passé ?
Tout s'est hyper bien passé. Mon projet à moi, c'était d'accoucher et de repartir... à la maison juste après.
D'accord.
Comme au Calme, en fait. Et comme l'accouchement s'est très bien passé, tous les feux étaient ouverts pour que je parte. Il y a eu un petit changement d'équipe où, du coup, j'ai dû signer plein de papiers me disant que je renonçais. Et donc, ça, c'était pas cool non plus. Je suis partie aussi en colère pour ça parce que du coup, Emma n'a pas eu le droit de voir le pédiatre. Parce que si je voulais voir le pédiatre, il fallait que je reste un jour ou 2 jours de plus.
Ah oui, d'accord.
Et donc, j'ai pris ça comme du chantage et pour moi, c'était pas du tout acceptable de faire ça, quoi.
Mmh.
Emma, elle est très bien, etc. Donc, il y avait aucune raison. Et puis, il y avait surtout aucune raison de nous obliger à faire ça.
Mmh.
Sachant que tout allait bien, quand j'étais transférée au tout dernier moment, etc. Donc ça, c'était pas facile. Et en même temps, j'étais quand même hyper bien accompagnée. Et j'étais vraiment sûre. Tu vois, on parlait de détermination tout à l'heure. J'étais vraiment sûre de mon projet. J'allais très, très bien. L'accouchement s'était très bien passé. Emma allait très bien. Il y avait aucune raison de nous forcer à rester, quoi.
Ouais. Donc t'es rentrée à la maison.
Et ma sage-femme est venue à la maison dans l'après-midi même pour faire le premier check-up, comme on l'aurait fait si j'avais accouché à la maison de naissance. Et du coup, tout le suivi s'est fait après à la maison avec ma sage-femme.
Et l'allaitement aussi ?
Super.
toi c'est
oui,
tout.
Oui, par rapport à la première fois, oui.
Ouais.
Ouais. Je pense que j'avais une petite fille aussi qui était, Emma, qui était hyper péchue.
Mm.
Et puis on peut même le voir là, dans la différence de caractère entre les deux et tout. Je pense qu'il y avait quelque chose qui se jouait aussi à ce niveau-là.
Okay.
Et je pense que j'étais aussi sûrement plus calme et sûrement plus préparée, etc. Mm. Donc oui, honnêtement, les premiers jours, c'est quand même, ça reste intense, mais c'était... En tout cas, ça fonctionnait très bien, donc ça, c'était chouette.
Ouais.
Ouais.
Et toi, t'avais ces 3 années aussi de changement pro.
Ouais.
Tu devais t'enrichir aussi dans cette deuxième maternité.
Et oui, carrément, parce que du coup, tu vois, à ce moment-là, c'était déjà 4 ans, donc j'avais l'expérience de 4 ans de Léonie, plus ces 2 années de formation, etc., où j'avais beaucoup plus commencé déjà à potasser, mais de manière, avec un œil plus professionnel, tu vois. Donc c'était, c'était vraiment différent. Très très riche et vraiment très chouette.
Comment tu la décrirais ta deuxième maternité par rapport à ta première ? Plus sereine, plus préparée, plus sereine,
plus en puissance C aussi. Mais je pense que c'était surtout la sérénité, tu vois, je me sentais sereine, apaisée et j'avais vraiment plus confiance.
Mmh.
Peut-être la confiance, tu vois. J'avais beaucoup plus confiance en mes capacités de mère parce que j'avais réussi à tenir en vie Léonie, parce qu'avant j'avais des mauvaises expériences avec mes poissons rouges, etc., et mes plantes. Il y avait ce truc là du ah c'est bon, en fait je peux m'occuper d'un petit bébé, c'est ok. Donc j'avais vraiment confiance, tu vois, à ce moment là et puis même moi et le papa on était beaucoup plus expérimentés, donc les couches, tout ça, c'était fastoche pour nous à ce moment là
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé professionnellement ? Comment ça a évolué, en fait, ta démarche d'accompagner les femmes, de les aider ? T'as commencé par quoi ? Tu disais que t'avais ouvert un cabinet, donc t'as reçu des
exactement,
femmes
ouais. assez rapidement.
Début,
ouais, tout à fait, ouais. J'ai commencé à recevoir mes premières clientes, hein, peut-être en 2014, je pense, quand j'étais enceinte. J'ai dû faire des premiers rendez-vous. J'étais dans un cabinet partagé dans le 11e arrondissement à Paris. Je faisais de la naturopathie. Et après, quand Emma est arrivée, pendant plusieurs mois, j'ai pas du tout pratiqué, etc. Et après, j'ai recommencé à pratiquer quand j'étais une jeune maman, où j'y allais que pour des demi-journées, par exemple, tu vois, le samedi matin, notamment, où je partais, et je faisais un ou deux rendez-vous, et puis soit le papa venait me rejoignait pour que je puisse l'allaiter, par exemple. Enfin, on était quand même hyper bien organisés. Je me rappelle même pas continuer ma formation en acupuncture traditionnelle avec le papa qui venait m'apporter Emma et tout. Sur la pause de midi pour que je puisse l'allaiter. Je rentrais plus tôt le soir pour pouvoir être là aussi pour ces biberons. Donc on avait vraiment mis en place une logistique pour que je puisse m'installer professionnellement et aussi continuer ma formation.
D'accord.
Ouais.
Et les femmes venaient pourquoi ? C'était plus pendant la grossesse ?
Oui, exactement.
Le postpartum ?
Ouais. Ouais, c'était beaucoup pendant la grossesse.
D'accord.
Tu vois, j'ai l'impression que le postpartum, c'est pendant nos rendez-vous autour de la grossesse que je les informais de toutes les choses qu'elles pouvaient potentiellement faire pendant le postpartum, et je les informais de mes ateliers, et je les informais de tout le reste.
Ouais.
Mais en général, à cette époque-là, non, les femmes, elles venaient pas pour le postpartum.
Ouais,
c'est exactement comme moi.
C'est pas ce qui se passe après l'accouchement.
Mais non, parce que tout va bien. Une fois que t'as le bébé, c'est ça, tu accouches, et puis après, tu es aussi belle que Kate Middleton avec ta jolie robe bleue, et puis ton bébé et tout, tout va bien, t'as des papillons autour, et puis t'as les oiseaux, tout ça. Donc on a tous cette image en tête, et puis bon, après, du coup, pour un deuxième bébé, en général, tu sais que tu
peux. On te la fait pas à l'envers.
Ouais, c'est vraiment exactement. La première fois, vous m'avez vu, même pas pour la deuxième.
Ouais, donc tu commençais à informer sur le postpartum.
Exactement. En fait, le but, c'est vraiment de faire de la prévention, en fait. Tu vois, c'est vraiment d'informer les femmes sur ce qui est possible de faire.
Ouais. Et donc aujourd'hui, on peut venir te voir pour et la grossesse et le postpartum.
Alors aujourd'hui, maintenant, on peut venir me voir pour tout, comme depuis le début, etc. Les femmes viennent beaucoup me voir pour tout ce qui concerne la périnatalité, même le avant-grossesse, du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais maintenant, je ne pratique plus la naturopathie. J'utilise la naturopathie pour compléter mes accompagnements avec les femmes.
Mm.
Mais oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après 2019, après la sortie de mon livre, là, j'avais vraiment des gens qui venaient vraiment que pour du postpartum.
Ouais.
Elles étaient enceintes, c'était leur dernier mois, etc. Elles voulaient se préparer pour l'après. Et pour moi, ça, c'était comme si j'avais réussi à... J'étais tellement fière de me dire « Waouh ! C'est bon, les femmes, maintenant, elles commencent à se rendre compte qu'elles peuvent faire des choses pour après, quoi.
Mmh. »
Et tu sais, en 2019, quand j'ai sorti mon livre, en fait, il y avait 3 milliards de livres sur le bébé et sur la grossesse. Il n'y avait pas de livre, en fait, sur le postpartum à ce moment-là. Tu vois, même les éditeurs, ils n'étaient pas intéressés par mon livre. C'était pas sexy.
Ça s'appelle le quatrième trimestre.
Au naturel, ouais. Bien vivre le quatrième trimestre au naturel.
Mmh. Et on retrouve quoi alors dedans ?
On retrouve de l'alimentation,
ouais.
Parce qu'en fait il y a tellement de choses qu'on peut faire rien qu'en mangeant pour aller mieux, pour récupérer. On trouve des choses en lien, tu vois, avec des plantes, avec des respirations. Et puis c'est un livre qui est plein d'astuces et de conseils, mais c'est un livre qui est surtout hyper bienveillant. où du coup quand on le lit on se rend compte qu'on n'est pas la seule à souffrir, parce que je trouve qu'il y a vraiment ce truc là aussi dans le postpartum que moi j'ai beaucoup ressenti dans le deuxième, un peu moins peut-être dans le que j'ai beaucoup ressenti dans le premier, peut-être moins dans le deuxième, c'est vraiment la solitude.
Ouais.
Tu vois, la solitude, le fait d'avoir la sensation d'être seule. En fait, à Paris, tu vois, les mamans se sentent seules, mais en fait, elles habitent toutes à côté les unes des autres. Mmh. Et j'avais vraiment, tu vois, j'avais fait des recherches, notamment en Afrique, et puis il y avait cette citation, tu vois, qui dit que on a besoin de tout un village, tu vois, pour soutenir un enfant. Je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Donc, tu vois, j'avais des idées, des projets de rassembler les femmes. Donc, ouais. Je commençais du coup dans le 19e, hein, c'est là où je suis installée, mais de rassembler toutes les mamans en me disant, tu vois, quand elles vont venir aux ateliers, elles vont devenir amies, etc. Et du coup, après, elles vont faire des sorties poussettes au but de chemin ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des groupes WhatsApp qui existent toujours, du coup, depuis 2019, 2020, etc. Quoi. Mm. Avec des femmes qui s'envoient des photos, des messages de bonne année.
Ouais.
C'est trop chouette, quoi.
Ouais, il faut créer le lien.
Exactement. Mm. Donc, ça aide vraiment, je trouve... Tu vois, donc mon livre, c'était aussi ça. C'était rappeler qu'on n'est pas seul, qu'on peut créer du lien. Parfois, c'est difficile et tout... Mais voilà, on peut essayer de faire ces choses-là. Et puis c'était un livre, tu vois, qui parlait, qui parle beaucoup des inconforts physiques qu'on peut avoir. Parce que une fois qu'on t'a dit que tu perdais tes cheveux après l'accouchement, si t'as pas de guidelines pour savoir quoi faire pour lutter contre ça, bah c'est comme super frustrant, quoi.
Ouais.
Si t'as des problèmes d'hémorroïdes et qu'on dit bah oui c'est normal, bah non en fait c'est pas ok. Donc mon livre, je l'ai vraiment travaillé suite à tous les rendez-vous que j'avais pu avoir au cabinet pour pouvoir vraiment être super spécifique et donner vraiment des outils qui allaient vraiment servir. Ouais. Tu vois, pour pas que les femmes elles perdent du temps, pour pas qu'elles se sentent mal dans leur corps aussi, parce que tout naturellement déjà c'est pas facile de retrouver son corps, de se reconnecter avec lui. Et donc tu vois, il y a vraiment cette partie-là sur la reconnexion au corps, la reconnexion à la sexualité aussi, tu vois, c'est tellement important. Et c'est ok de savoir que ça peut prendre du temps, 6 mois, 12 mois, et que tout ça c'est ok en fait. Mm-hmm. Et que c'est pas la course contre la montre, qu'un postpartum ça dure pas 40 jours après l'accouchement, et puis après du coup vous êtes censé avoir retrouvé la forme les filles. Non, ouais. C'est pas ça quoi, c'est le postpartum ça dure le temps que ça dure. On pense que ça dure sûrement entre 2 et 3 ans, le temps que le cerveau, tu vois, retrouve sa plastique initiale. Mais en fait, ça peut durer 5 ans ou 10 ans, quoi, parce que se remettre de l'arrivée d'un enfant, retrouver un équilibre familial, un équilibre à l'intérieur de soi, ça peut prendre du temps et c'est bien normal.
Oui, se reconnecter à soi comme toi tu l'avais fait.
Exactement, oui.
Et c'est quoi les problématiques de toutes ces femmes, généralement, quand elles viennent te voir ?
Je pense que la première, c'est souvent la solitude,
ouais.
Tu vois, et c'est le fait de se sentir nulle.
Ok, dans le rôle de mère ?
Ouais, dans le rôle de mère, dans le rôle de femme.
D'accord.
Ouais. Ouais, c'est difficile hein, d'avoir la sensation que tout le monde y arrive mieux que soi. Et je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup.
Ouais.
Quand tu vois ces magnifiques photos et tout à la Kate Middleton, et que toi tu galères en survêt dans ton appart et qu'il est 15h et t'as pas pris ta douche, ouais, tu peux commencer à douter de tes capacités à être une bonne maman parce que t'as l'impression que c'est facile pour tout le monde et que toi en fait t'en chies. Donc il y a beaucoup de ça, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui viennent pour fatigue. Et en fait, quand tu vas vraiment voir en dessous, qu'est-ce qui se passe, quoi ?
Ouais.
Bah, c'est la fatigue parce qu'il y a de la comparaison, parce qu'il n'y a pas de soutien, parce qu'elles sont vraiment seules beaucoup la journée, et que c'est pas facile d'accueillir un enfant qui a un petit être à part entière qu'on doit découvrir, en fait. Il y a aussi, tu sais, toute cette pression qu'on a aussi sur le lien maternel. Comme c'est notre enfant et que comme on est avec notre belle robe bleue, avec notre enfant dans les bras, c'est l'amour fou au premier regard.
Ah oui.
Et en fait, ça, c'est pas tout à fait la réalité. Et puis on le sait, tu vois, il y a des études qui le montrent, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est bien normal que parfois ça puisse prendre du temps parce qu'on a une histoire personnelle, etc., qui rentre en compte. Et parfois, il faut 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 6 mois pour se rendre compte qu'on a un lien particulier avec cet enfant-là et qu'on a pu travailler sur nos peurs, etc., qui parfois prennent trop de place et qui nous empêchent d'être vraiment connectés. Mais ça peut faire peur aussi, parfois.
Mmh. Oui, ou un accouchement qui s'est mal passé ou pas passé comme on l'espérait.
Exactement, parce que tu vois, c'est un peu la... Et je le sais maintenant avec mon regard, tu vois, beaucoup plus sage. Mais tu vois, mettre tous ses espoirs sur l'accouchement et focaliser que sur l'accouchement, sur un événement qui dure en général 10 heures, et ne pas regarder ce qui se passe après, ou... Enfin, tu vois, c'est vraiment aussi se cacher... je pense qu'il y a une partie de nous qui doit peut-être avoir peur aussi l'après, je ne sais pas. Mais c'est vraiment s'empêcher d'aller bien après, tu vois.
Oui.
C'est trop, ça peut être trop décevant, ça peut être trop difficile. Et t'as raison, des fois, des accouchements qui peuvent être traumatiques et qui nous empêchent, du coup, de créer du lien avec l'autre.
Ouais, ou un allaitement qui ne fonctionne pas, parce que, bah, on est beaucoup à penser que c'est tout à fait naturel et que ça va être hyper simple.
C'est tout à fait naturel, mais c'est pas pour ça que c'est facile, quoi.
Ouais.
Et donc, quand t'as l'impression que... Quand t'as cru comprendre que c'était naturel, donc facile, parce que toi, tu es une femme, donc tu es censée allaiter, c'est tellement dur, quoi.
Mm.
Donc, les femmes peuvent venir me voir beaucoup pour ça. J'accompagne beaucoup les femmes dans tout ce qui est émotionnel. Mais après, ça peut être pour des problèmes d'allaitement, ça peut être pour des problèmes de cicatrices, ça peut être pour plein de choses, quoi.
Ouais. Et alors, toi qui as complètement changé du coup de métier, hein, suite à ta maternité, comment tu le vis tout ça aujourd'hui si tu regardes 10 ans en arrière où t'étais full business girl?
Je pense que je suis. J'ai ma petite Julia intérieure qui est hyper fière de moi.
Ouais.
Et je suis contente d'être une adulte pour cette petite Julia-là. Et de lui montrer que tout est possible, que c'est ok, que ce soit difficile parfois et qu'il y a plein d'événements dans la vie qui peuvent être durs. Mais qu'on peut toujours croire en nos rêves. Et ça, j'y crois vraiment. C'est pas juste du bullshit à paillettes entouré d'une jolie licorne qui nous tourne autour. Ouais. Non, c'est vraiment tout est possible, quoi. Et qu'on a toujours, on a cette flamme intérieure qui est toujours présente et qui, des fois, va un petit peu s'étioler. Mais quand on prend le temps de la regarder, quand on se donne la possibilité vraiment de la faire grandir, ben, on peut s'autoriser à être courageuse et à prendre des décisions qui sont importantes pour nous. Même si ça fait aucun sens pour notre entourage, même si personne ne comprend, etc. Le plus important, c'est de savoir que ce que l'on fait a du sens. Et je me remercie de mon courage en 2012 d'avoir décidé de faire de la naturopathie, alors qu'à l'époque, tu vois, les gens n'avaient jamais entendu ce mot-là.
Ouais.
Parce que ça m'a permis, du coup, de mieux comprendre comment moi je fonctionne, d'aider les femmes aussi après. Et finalement, on se rend compte que c'était quand même hyper aligné et que je suis tellement heureuse aujourd'hui d'avoir suivi mon cœur, d'avoir suivi ma voix, tu vois. Mmh. Et du coup, je suis pleine de gratitude pour ces deux maternités qui m'ont fait tellement changer, ou en tout cas qui m'ont vraiment reconnectée à ma puissance de femme. Parce que je pense que quand on est mère, on est vraiment super puissante.
Ah oui.
Parce qu'on vient vraiment aller souvent puiser, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'était pas idéal d'aller puiser dans nos réserves physiques, etc. Mais il y a cette réserve de courage qui est à l'intérieur de nous, de détermination qui est vraiment présente. Comme cette mère louve, tu vois, qui va faire n'importe quoi pour protéger son enfant. Ça, on l'a à l'intérieur. Et donc, je suis hyper fière d'avoir su écouter ma voix. J'ai eu de la chance aussi d'avoir été soutenue, notamment dans des grands moments, je pense, au père de mes filles. Même si on est séparés maintenant, il a été, à certains moments, il était vraiment très soutenant pour moi, notamment pour cette reconversion professionnelle.
Ouais.
Et donc, quand je me regarde, moi, avec 10 ans de recul et tout, je me dis, waouh, j'ai fait un sacré chemin, quand même.
Mmh.
Partir de la business girl qui n'y connaissait rien, à écrire un livre qui est là pour être présente pour des jeunes mamans et tout, c'est quand même pas rien, quoi.
Et là, qui ressort donc en nouvelle édition, mm-hmm. en réédition.
Ouais, en édition augmentée, ouais.
Ouais, vous avez ajouté quoi dans ce livre?
J'ai ajouté des choses sur le couple, justement.
Ouais.
Ouais. Parce que je me rends compte que bien manger, c'est hyper important, les plantes peuvent nous soutenir, etc. Mais quand on n'a pas une tribu autour de nous, c'est difficile. Et je pense que ce serait plus facile si on avait des partenaires qui pouvaient prendre soin de nous, justement. Et donc ce livre-là, c'est aussi une autre partie, une autre forme de guérison aussi pour moi. Parce qu'en fait, on peut faire plein de choses quand on est une jeune maman. Même quand on est en plein baby clash, même quand c'est difficile, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avant d'arriver à la rupture et à la séparation.
Ouais.
Que j'avais aussi envie de partager ça. Je pense que dans le livre, il y a plein de thématiques, plein d'aides pour se poser des questions pendant la grossesse, par exemple, pour justement que quand on est fatigué, parce que ça arrive, quand on est fatigué, quand bébé est là, qu'on puisse se rappeler de ce qu'on s'était dit avant et quels étaient nos objectifs communs, par exemple.
Ouais.
Donc il y a vraiment beaucoup d'aides là-dessus. Il y a aussi des aides dans le livre autour d'approches thérapeutiques, notamment la méthode Imago, qui est super pour aider les couples, les femmes, les hommes, les partenaires, etc. Enfin, c'est hyper riche. Et ce sont des outils ou des ressources dont on a besoin quand on est un jeune couple, parce que autant on nous apprend à faire des intégrales ou la trigonométrie, autant on nous apprend pas à être maman, et on nous apprend encore moins à être un couple.
Ouais.
Et du coup, ce livre-là, avec cette édition-là, c'est vraiment pour amener des conseils, des astuces, des petits mots pour le partenaire, etc., pour que lui aussi se sente aussi inclus dans cette maternité, parce que ça doit être difficile aussi, hein, pour les hommes de se retrouver sûrement mis de côté, etc., parce que nous, on a des besoins qui sont quand même assez spécifiques. Et enfin bref, tout ça pour dire que le but du livre, c'est vraiment pour aider les partenaires aussi, pour qu'ils puissent encore mieux être au service de leur, des jeunes mamans et que les jeunes mamans aussi comprennent que, qu'il y a quelque chose qui se joue aussi à l'intérieur d'elles. Et je pense que le plus important dans ces cas-là, c'est vraiment de revenir aussi à l'intérieur de soi et savoir quels sont nos besoins et avoir de la clarté sur tout ça, quoi.
Ouais. Et alors toi aujourd'hui, on en parlait au début de l'épisode, tu entres dans l'adolescence, enfin tes enfants.
Pour Léonie, ouais.
Ouais. Comment t'apprivoises cette nouvelle...
Moi je suis hyper heureuse d'être auprès de Léonie dans ces moments-là.
Ouais.
Ouais.
On n'est pas vraiment préparé non plus. Enfin, on l'a vécu nous-mêmes, mais je sais pas si on...
Je sais pas si c'est très juste de...
Ouais.
De... Non, c'est pas très juste de faire ça. Moi je suis hyper heureuse parce que j'ai fait un gros travail sur moi là, depuis une dizaine d'années, notamment par rapport à ma régulation émotionnelle.
Ouais.
Ce que j'apprends hein, tu vois, à mes clientes. Et donc du coup, tu vois, quand je suis activée par ma fille, je vais tout de suite me réguler moi. Et je sais comment faire aussi pour la réguler, elle.
Mmh.
Et donc, c'est hyper beau aussi parce qu'elle rentre dans cet âge où elle est en train de devenir une jeune femme. Et je suis tellement fière d'elle et tellement fière de voir comment elle navigue dans ces troubles, du coup, de l'adolescence. Et je suis hyper contente de pouvoir être là en tant que phare, tu vois. Moi, je suis là quand elle a besoin. J'essaie le plus possible de ne pas être dans l'ingérence. Et du coup, de ne pas projeter mes propres expériences personnelles sur elle, parce que du coup, la phrase que je me répète sans arrêt, c'est « son âme sait ». Donc tu vois, son âme, à elle, c'est exactement ce qu'elle doit faire. Moi, par contre, je suis là pour qu'elle puisse se sentir en sécurité. Je suis hyper heureuse en tant que maman qu'elle puisse se confier à moi, etc., et qu'elle ait confiance en moi, du coup. On a beaucoup, beaucoup de confiance toutes les deux, l'une envers l'autre. Alors je sais pas si c'est parce que du coup je suis maman solo et qu'on a ces moments vraiment privilégiés toutes les deux et,
ouais.
Et du coup il y a ce truc de femme, on habite toutes les trois ensemble là, donc tu vois il y a ce truc là de on est vraiment une équipe,
ouais.
Donc je pense que ça doit aussi créer des liens assez, assez spéciaux, mais je fais vraiment très attention à pas faire de l'ingérence, à pas je dirais à pas être trop inquiète pour elle, je sais pas si c'est possible ça tu vois, mais vraiment à prendre du recul puis à être là en tant que maman sage.
Mmh.
Pour l'aiguiller, tu vois, pour tout ce qui concerne les cycles, les plantes, les hormones,
ouais.
Et ce qui se joue pour elle à l'école, tu vois, les relations. On travaille beaucoup tous les deux sur ça. Comment est-ce que je fais pour me positionner, comment je pose des limites. Moi, je suis une magnifique people pleaser, tu vois, donc je fais. Avant, j'avais ça, quoi, j'avais ce truc du il faut que je fasse plaisir aux gens, sinon ils vont me rejeter, ils vont plus m'aimer. Bon, ma fille a ça aussi.
A hérité
ça. Et donc le but c'est vraiment, et c'est hyper intéressant pour moi parce que ça me remet dans mon espace et je me dis waouh, ok, je vois d'où elle part, mais c'est quand même pas ok, c'est pas acceptable pour elle parce que je pars du principe que si elle apprend maintenant en tant qu'adolescente, tu vois, à 13 ans, à réguler ses émotions, à poser ses limites, à dire oui quand c'est ok, à dire non quand c'est pas ok, sans avoir peur d'eux, qui sont que des projections, je pense que ça va être une jeune femme extraordinaire parce qu'elle sera hyper puissante, hyper ancrée dans sa vérité. Du coup, elle pourra bouger, faire bouger des montagnes et du coup avancer dans sa vie perso et pro en étant toujours authentique, intègre. Et ça, pour moi, c'est important. En tout cas, c'est comme ça que je vois mon rôle de maman, c'est d'être présente pour elle pour ça, quoi.
Oui, tu leur montres quand même un message fort aussi en ayant switché complètement de voie professionnelle. T'en parles avec elle,
beaucoup,
avec tes deux filles.
Ouais, beaucoup.
Ça veut dire que tout est possible, justement.
Exactement. Ouais. Et puis, du coup, ça me fait penser, tu vois, à l'exemplarité quand tu dis ça. Mais oui, là, c'est intéressant parce que on met énormément de pression, tu vois, aux enfants quand ils sont au collège. Et donc, là, ma fille, là, depuis cette année, c'est mon Dieu, je ne sais pas ce que je veux faire quand je serai plus grande.
Ah oui.
Alors qu'elle a toujours eu plein d'idées avant. Et en fait, c'est juste de la rassurer en me disant, hey, t'inquiète. En fait, a priori, tu vas changer de métier plein de fois.
Ouais.
Et tu peux tout faire, quoi.
Mmh.
Tu peux tout faire, on peut toujours changer de voie.
Ouais.
Et donc t'inquiète pas, fais du mieux que tu peux là pour tes études, reste focus sur ce que t'apprends à l'école parce que malheureusement ça passe par ça pour avoir le choix après de faire ce que tu veux faire.
Ouais.
Donc ça passe par le fait d'avoir un bon dossier et puis en plus là, donc c'est une petite adolescente parisienne. Ouais, moi je découvre ça parce que je viens de Toulon donc c'est vraiment très nouveau, mais toutes ces histoires de lycée parisien, de collège, de dossier et tout. Déjà qu'on avait commencé avec les crèches au sixième mois de grossesse, on est déjà aux inscriptions en crèche, mais en fait ça n'arrête plus cette histoire.
Ouais.
Donc voilà, donc ouais, c'est j'ai l'impression que c'est ça qui met beaucoup de pression sur nos enfants, donc j'essaie aussi de relativiser ça et mon but à moi en tant que parent, tu vois, c'est vraiment de lui donner tous les outils nécessaires pour que elle à l'intérieur elle puisse faire ses ses propres, parce qu'elle puisse prendre ses propres décisions, qu'elle fasse ses propres choix, tu vois. Mon but, c'est pas qu'elle ait une vie facile. Mon but, c'est qu'elle puisse avoir une vie dans laquelle et tout, elle puisse savoir se réguler pour pouvoir continuer à avancer et que ce soit facile pour elle au niveau de son système nerveux, son système émotionnel, etc.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Bah, tout, je pense. Je me suis rendu compte que j'étais patiente.
Ouais.
Je me suis rendu compte que je pouvais être très maternelle et maternante. Ce que je pensais pas du tout avant, on faisait même des blagues du coup avec leur père sur ça. En fait, je suis une vraie maman louve et une maman poule, quoi. Mmh. Et donc, ça a changé beaucoup de choses parce que ça a aussi changé mon regard sur le monde et sur la vie. Et ça m'a vraiment réouvert à quelque chose de grand. Et je pense que ça a changé beaucoup aussi ma relation avec les femmes.
Ouais.
On parle beaucoup de sororité, tu sais, c'est un peu un mot à la mode, et tant mieux pour plein de raisons, mais je pense que c'est quelque chose que je sens vraiment à l'intérieur de moi, dans mes cellules, le fait qu'on est vraiment toutes ensemble, toutes unies, et qu'on est toutes les unes là, les unes pour les autres, et que c'est comme ça que le monde va changer, et je l'expérimente, et je l'ai expérimenté dans plein de domaines différents. Est-ce que je peux parler de ça ? Oui, sûrement. Je pense là, récemment, tu vois, du coup, au père des filles, qui a refait sa vie, et qui a eu un petit garçon il n'y a pas très longtemps, et tout ça. Et c'est ce truc du... Pour plein de raisons, notamment avec une naissance qui arrive un peu plus tôt que prévu, ou beaucoup plus tôt que prévu, tu vois, mon cœur de femme et de mère était là pour être au service de l'autre aussi, tu vois, en faisant un petit sac avec du bouillon à l'intérieur, des plantes pour la maman, tu vois, même si on se connaît pas.
Ouais.
Parce que j'avais ce truc là de waouh, ça doit être tellement dur pour elle là en ce moment et tout. T'en parlais, tu vois, j'ai des frissons. Ça doit être tellement dur pour elle là d'avoir cet accouchement là qui était sûrement très très loin de ce qu'elle avait pu imaginer.
Mmh.
Et c'est tout de suite, tu vois, de se redire waouh, en fait on est vraiment ensemble, quoi.
Ouais.
Et je pense que la maternité, ça m'a vraiment permis d'intégrer ça vraiment dans tout mon corps. On n'est pas les unes contre les autres. Ça, c'est le monde d'avant. On nous a appris, on nous a fait croire en tout cas qu'on devait être meilleur que l'autre parce que l'autre pouvait soit piquer notre petit copain au lycée, soit voler notre mari, soit, enfin tu vois,
ouais.
C'est fini ça. En fait, c'est pas, en tout cas, c'est fini pour moi. C'est pas le monde que je veux créer pour mes filles.
Mmh.
Et donc, ce que m'a appris la maternité, c'est qu'on est vraiment entre, c'est que vraiment que nous, en tant que femmes, on peut vraiment s'aider les unes avec les autres. On peut vraiment être au service de l'autre. On peut vraiment être là en soutien tout le temps, que ce soit avec nos transmissions, que ce soit avec un podcast, avec un métier, etc. Le but de tout ça, en fait, c'est vraiment de nous relier. Et je pense qu'on est toutes reliées, mais qu'on a oublié. Et la maternité, tu vois, pour moi, ça m'a permis de me rappeler de ça.
Mmh.
Donc voilà, la maternité, ça a changé tellement de choses, tu vois, au point de vue perso et tellement au point de vue pro.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
C'est une maman qui essaie le plus possible d'être en contact avec la nature malgré le fait d'habiter à Paris. Donc c'est d'aller beaucoup au but de Chaumont et de marcher le long du canal.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris ?
Les buts de Chaumont.
Mmh.
Et sinon, si c'était un lieu, on aime bien aller au pavillon du lac dans le 19e parce qu'on trouve que c'est trop mignon de manger dans une baignoire.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Les projets rien que pour moi, c'est que je suis dans une initiation en ce moment pour vraiment tenir des espaces de cérémonie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment très très à cœur. Et le gros projet en famille qu'on a, c'est que l'an prochain, Emma rentrera. Donc pas cet été-là qui arrive, mais le prochain, celui d'après. Emma rentrera en 6e et Léonie en 3e. Et on a envie de faire un grand voyage en sac à dos toutes les trois.
Trop chouette.
Ouais, donc ça, c'est notre gros projet.
Merci beaucoup, Julia.
Merci, Shane. Merci beaucoup.
Épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite !